La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Bonjour, excusez-moi, la fatigue est encore là. Voilà. Donc, j'espère que nous allons passer un merveilleux moment dans la méditation, la réflexion de la parole de Dieu. Donc, c'est une richesse pour nous de participer à la communication de la vérité. Donc, c'est une très grande bénédiction pour nous et je pense que nous devons progresser jusqu'à ce que toute la Martinique puisse être englobée de la lumière qui découle du trône de Dieu, du lieu très saint. Parce que c'est là que tout se passe pour chacun de nous. Donc, nous pouvons glorifier Dieu et nous devons glorifier Dieu car aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup d'incompréhensions. Nous devons aller fonctionner ou du moins aller de l'avant au fur et à mesure pour assimiler les choses de Dieu parce que nous ne pouvons le faire d'un coup. C'est au fur et à mesure que la lumière, nous progressons dans la lumière. Donc, avant de commencer, nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier. Éternel, notre Créateur et notre Dieu, c'est un grand privilège, ô Père, de nous retrouver ici, prosternés à tes pieds. Nous avons besoin d'illumination. Nous avons besoin, Père, de ton Esprit Saint. Accorde-nous la grâce et le privilège de dépendre totalement de toi, alors que je prendrai la parole. Assiste-moi, Seigneur, de telle sorte que ton Esprit puisse parler à nos cœurs et d'abord à mon cœur, afin que ton nom puisse être glorifié. Visite-nous, ô Dieu, par ton esprit, et conduis-nous dans la compréhension de ta lumière. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, c'est une grande bénédiction pour chacun de nous de partager la parole de Dieu. Donc, le message, c'est... Hier, il me semble que c'était, j'avais confondu au niveau du titre, mais c'est « Toujours sortez de Babylone, mon peuple ». Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons une catégorie de personnes qui approchent la vérité présente avec le comportement des antédiluviens. À la fin de la construction de l'arche, certains ont admiré l'arche pour sa solidité. D'autres ont été impressionnés par son architecture. D'autres ont été impressionnés par la porte. D'autres par la structure de l'arche. Et ce qui est de choquant dans cela, c'est qu'à un certain moment, ils étaient complètement étonnés, pratiquement tétanisés par le fait qu'il y avait des animaux qui entraient dans l'arche deux à deux. Donc, ils sont restés à regarder cet événement et c'était quelque chose d'étonnant pour eux, pour les antédiluviens. Donc, cette expérience, quand ils ont regardé les animaux entrer dans l'arche, je dirais l'arche de la justice de Dieu, mais eux-mêmes, les antédiluviens, ils ne sont pas entrés dans l'arche. Donc, ils ont admiré, ils ont regardé les animaux entrer, mais eux-mêmes, ils ne sont pas entrés dans l'arche. Dans le livre Patriarches et Prophètes, à la page 70, il est dit, « Tout ce que Noé possédait fut investi dans cette construction de toutes les directions. Des foules vinrent contempler cette gigantesque embarcation érigée sur terre ferme et entendre les paroles ferventes et convaincues du singulier prédicateur. » Donc, nous comprenons que il y avait de la curiosité quand ils ont vu l'arche, ce monument de la justice de Dieu, érigé sur terre ferme. Ils étaient impressionnés. Ils regardaient la construction, l'architecture. Ils étaient impressionnés par cela. Eh bien, rien n'a changé aujourd'hui parce que beaucoup de personnes s'approchent de la vérité présente avec le même comportement que les antédiluviens. Faut message là, Belin. Hein? Celui qui présente la justification par la foi, ça m'impressionne. Ils sont en train d'analyser la structure du message. Le message est agréable. Le message est percutant. Mais jamais ils n'entreront là où Jésus fait l'expiation pour nous dans le lieu très saint. Donc, le comportement des antédiluviens, on le retrouve dans notre siècle moderne. Et ça, c'est très, 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 très grave. Certains croyants trouvent que la vérité présente est belle, comme j'ai dit tout à l'heure là. D'autres trouvent que les sujets sont percutants. D'autres sont dans l'admiration de l'histoire de l'Église. D'autres vont même s'investir pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais comme à l'instar des antédiluviens, ils n'accepteront jamais de vivre le message. Jamais ils accepteront d'entrer là où Jésus fait l'expiation pour son peuple. Quand la vérité n'est pas acceptée, qu'est-ce qui se passe? Quand la vérité de la justification par la foi n'est pas acceptée, on tombe dans des extrêmes, comme le fait de recevoir des visions et des songes sans le discernement de la parole de Dieu et de fixer des dates prophétiques. Des personnes, par exemple, ont prédit que la Martinique allait disparaître. Vous vous souvenez de cette période? Il y a un certain nombre de personnes qui ont voyagé. Ça m'amuse un peu parce que je connais des personnes qui ont pris l'avion. Il y a certains qui ont été au Canada, d'autres ont été en France et d'autres ont été dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait une date fixée où on disait que la Martinique allait disparaître. Est-ce que vous vous souvenez de cela, de cette période-là? Donc, il y a des gens qui prétendent avoir des visions et qui disent que qui prédit des choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Alors, on continue. Que disent ces personnes pour asseoir leur théorie? Que la Martinique est corrompue, il y a trop de vices, trop d'immoralité, ce qui sous-entend que parmi toutes les îles de la Caraïbe, c'est la Martinique la plus corrompue. C'est grave, hein? Il y a des gens qui le disent. Certaines personnes ont ouvert une porte dans leur esprit où les esprits se manifestent de plusieurs manières. Étant effrayés eux-mêmes par ce qu'ils reçoivent, ils effraient ceux qui les écoutent. Et ça, c'est grave. Parce que c'est des personnes qui ont eu des révélations, qui ont eu des visions, qui ont impressionné, effrayé du moins d'autres personnes, qui fait qu'ils ont pris la décision de partir et ils ont été vivre en France. Je connais un certain nombre de personnes qui ont fait des prédictions de ce genre. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10. Au chapitre 10. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament prophètes et qui fixent des dates. Le plus grave, c'est de fixer des dates pour un certain nombre de prophéties qui n'auraient pas été accomplies dans le temps. Et j'ai connu un groupe religieux en Martinique, bien qu'il y a plusieurs, et le leader de ce groupe, alors ça m'amuse énormément parce que le leader de ce groupe disait que le Christ est entré dans le lieu. Il disait que le Christ est entré dans le lieu très saint en 2010 et que dans Daniel, le roi du Nord, c'était les États-Unis. Et le roi du Sud, c'était l'Irak, complètement à côté de la révélation de la parole de Dieu. Que Christ sort du lieu saint pour entrer dans le lieu très saint en 2010. Il ne croit pas dans la révélation prophétique des pionniers ce que Dieu, les lumières que Dieu a accordées aux pionniers. Donc, pour lui, c'est en 2010. Donc, c'est très, très, très grave. Et lui s'autoproclame prophète. C'est l'une des raisons qu'il faut saisir, il faut saisir ça dans la parole de Dieu. Quitter Babylone, c'est abandonner toutes les hérésies, toutes les fausses doctrines et aussi ceux qui enseignent les fausses doctrines. Nous allons ouvrir nos Bibles. On a déjà cité le passage. Apocalypse, le chapitre 10, versets 1 à 11. Apocalypse, le chapitre 10. Nous allons retrouver ces passages, ce passage du moins, dans Apocalypse, le chapitre 10. Alors, à partir du verset 1er, il est dit, « Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée, et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Qui est ce personnage? Qui est ce personnage? Est-ce que c'est l'ange Gabriel, ici, dans ce texte? Est-ce qu'il s'agit de Jésus? Est-ce qu'il s'agit du Père? Est-ce qu'il s'agit d'un autre ange? Qui est ce personnage ici? Alors, Roselyne dit Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Oui. Alors, prouvez-moi dans le texte qu'il s'agit de Jésus. Qu'est-ce qui nous fait dire dans ce texte, le premier texte qu'on vient de lire, qu'il s'agit de Jésus? Je t'écoute, Roselyne. Oui? Très important. L'arc-en-ciel représente l'alliance. Et dans cette alliance, nous retrouvons l'évangile éternel, le message des trois anges. Très important. Donc, il s'agit bien ici, dans ce texte, de Jésus. Donc, au verset 2, il nous est dit, « Il tenait à la main un petit livre ouvert et il mit le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. » Là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ce texte, nous devrions le saisir là maintenant, le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse veut nous dire ici? Que cet être avait le pied droit où? Le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors, nous avons dit tout à l'heure là qu'il s'agit ici, le personnage qui est présenté ici, c'est Jésus. Où le message a pris naissance? Dites-moi, le message de 1800, d'avant 1884, puisqu'il y a eu le message du premier ange, du deuxième et du troisième ange, a pris naissance où? Dans quel pays? Les États-Unis. Donc, le message devait laisser le territoire des États-Unis, traverser les océans et englober la terre. Donc, c'est ce que représente le pied, alors, il s'écria d'une voix forte. Ouais, alors, il tenait dans la main un petit livre ouvert et il mit le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Donc, le message devait traverser les océans et le but de la divinité, c'était de remplir la terre de la connaissance de Dieu. Et cette connaissance n'est rien d'autre que la connaissance du message de la justification par la foi. Donc, c'est très important. Nous continuons la lecture. Et il s'écria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et après qu'il eut crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, au verset 4, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui me disait, scelle les choses que les sept tonnerres ont dites et ne les écris point. Comment comprenez-vous ce passage? Que représentent les sept tonnerres? Là, nous, on a brisé c'est pas boum, hein? ça sonne. Donc, les sept tonnerres ici dans le livre de l'Apocalypse représentent quoi? De quoi est-il parlé ici? C'est très important ce que la sœur vient de dire. Les sept tonnerres firent entendre leur voix. Donc, ils annoncent quelque chose. Ils annoncent quoi? Un message. Les sept tonnerres ici représentent les trois messages. Les trois messages du premier ange, du deuxième ange et du troisième ange. C'est le message de la justification par la foi. C'est les messages des trois anges. Donc, les sept tonnerres représentent les messages des trois anges. Alors, il est dit, et ne les écris point. Parce qu'après ces messages prophétiques, il n'y aura plus de prophéties basées sur le temps. D'ailleurs, le reste du texte nous le dit. Nous lisons au verset 5. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Là, c'est important. Il n'y aura plus de temps. De temps prophétique. La plus longue période prophétique a été les 2300 soirs et matins. Après cette période, qui aboutit en 1844, le 22 octobre 1844, il n'y a plus de prophétie basée sur le temps. C'est très important pour que nous puissions comprendre parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont des visions, ils s'autoproclament prophètes et ils fixent des dates, des événements qui doivent se produire, comme dans le Grand Cri. Ils disent que, par exemple, les deux tours qui sont tombés aux États-Unis, qui ont explosé littéralement, eh bien, c'est écrit dans les écrits de l'esprit de prophétie. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, ils ont fixé des dates en dehors de l'esprit de prophétie. Mais ici, dans le texte, il nous est dit qu'il n'y aura plus de message basé sur le temps. Donc, nous allons continuer la lecture. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer, verset 5, on l'a déjà lu, et sur la terre, leva sa main vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre, les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour où le septième ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à sa serviteur, les prophètes. Ici, le mystère de Dieu, c'est quoi? Que représente ce mystère? Parce que des fois, souvent, nous lisons, et il faut être curieux quand on lit les Écritures. Il faut être très curieux, analyser, comparer et réclamer l'illumination. Personnellement, c'est ce que je fais. Quand je lis un texte, pendant que je le lis, j'interroge le texte. Et interroger le texte, c'est interroger Dieu lui-même. Donc, que veut dire ce texte ici? Que le mystère de Dieu, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu, écoutez bien, n'est rien d'autre que l'expiation finale. L'expiation finale. À l'époque des apôtres, ils étaient dans le pardon, dans l'expiation. Jésus faisait l'expiation pour les disciples de son époque. Puisque quand il est entré au ciel, il est entré où? Dans le lieu saint. Tiens-moi d'accord. Et en 1844, il sort du lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Et il commence l'expiation. Tout court, l'expiation? L'expiation finale. C'est très important. Et c'est ça le mystère de Dieu. L'expiation finale, le mystère de Dieu, parce que c'est l'éradication définitive, totale du péché dans le sanctuaire et aussi dans notre vie. Et vous savez quelque chose? Quand vous avez je préfère prendre l'exemple du DVD. Il y a des choses qui sont sur le DVD. Mais vous voulez effacer ce qui se trouve sur le DVD. Ça s'appelle comment? Quand on efface ce qui est écrit sur le DVD et après on nous remet un DVD, comment? Vierge. C'est exactement ce que Jésus veut faire pour nous à partir du lieu très saint. Nous, d'ailleurs, il nous est dit dans la parole de Dieu que le peuple du reste représente les vierges. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont ni fraude dans leur bouche, voilà, ni mensonge. Ils sont purs. Ils sont irrépréhensibles. Donc, Dieu va effacer de leur mémoire toute trace de péché. Ils ne vont plus se souvenir du péché. Et ça va se produire avant que Jésus ne revienne sur la terre. Donc, nous allons continuer la lecture. Nous sommes au verset 8. Et vous allez comprendre que cette prophétie devait s'accomplir après les années de 1844. Et la voix que j'avais entendue du ciel, verset 8, me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et lui dis, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et le dévore. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Et alors, déjà ici, nous comprenons que ce message, c'est un message qui devait accomplir quelque chose. Parce que Jésus, on a dit tout à l'heure là, sort du lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Donc, la purification du péché avait commencé à partir de cette période-là. Mais la purification finale. Mais est-ce que le peuple de l'époque, est-ce qu'ils étaient prêts? Au verset 9, je reprends, « J'allais vers l'ange et lui dis, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et le dévore. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Verset 10, « J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et le dévoré. Et il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors, il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, de nations et de langues et de rois. » Donc, nous comprenons bien qu'il s'agit ici du, ce qui s'est passé en 1844, c'était le désappointement de 1844. Donc, tout est dans le livre de l'Apocalypse. Tout ce que les pionniers ont découvert se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et nous, en tant que croyants, nous devons étudier le livre de l'Apocalypse pour comprendre ce que les pionniers nous ont laissé, ce qu'ils ont écrit. C'est très important d'analyser et de comprendre ici que dans ce texte, il est parlé du désappointement de 1844. Mais le message ne s'arrête pas là. Comme il y a eu ce désappointement, le peuple n'a pas pleinement compris ou expérimenté le message. Le texte, au verset 11, il est dit, « Alors il me dit, il faut que tu prophétises encore. » Mais le même message, ce n'est pas un autre message, c'est le message des sept tonnerres. Il faut que tu prophétises encore. Et c'est pour cette raison que nous sommes encore là aujourd'hui. C'est parce que ce message n'a pas encore été expérimenté. Ce message n'a pas atteint son accomplissement total. Donc, il nous faut vivre cette dernière phase de l'expiation finale. Donc, le message doit être prophétisé encore. Mais c'est le même message. Et j'aime bien ce terme et je vais le relire à nouveau. Alors, il me dit, il faut que tu prophétises encore. Mais le même message des sept tonnerres sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues. D'où le pied de l'ange était sur la terre et sur les eaux. Alors, Nous allons continuer. Je disais tout à l'heure que nous ne devons pas fixer des dates. Si quelqu'un ici, dans cette salle, se réveille un jour et prophétise quelque chose en disant que Dieu m'a montré que telle chose va s'accomplir, telle date, etc. Il faut vérifier déjà cela à partir des écrits de la Bible et de l'esprit de prophétie. Donc, Jésus n'a fixé, après cette date de 1844, après cette date, il n'a fixé aucune prophétie en dehors de cette date. Cette fameuse, tout nous a été donné dans les écrits de l'esprit de prophétie et dans la Bible. Donc, il ne devrait pas avoir d'autres dates à partir de ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'est très important. Donc, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse le chapitre 18, Apocalypse le chapitre 18, à partir du verset 1er. Apocalypse le chapitre 18, le verset 1er. Après cela, vous avez trouvé? Tout le monde a trouvé? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Nous arrêtons là 2 minutes. Le terme ciel m'interpelle dans ce texte. Parce qu'il est dit dans le ciel. Mais ça paraît vague. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez comme moi je le comprends. Peut-être que je fais erreur. Ici, le terme ciel, c'est le sanctuaire, le lieu très saint. Parce que lisez avec moi. Au chapitre 16, tout à côté, le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, et au verset 17. Et nous allons revenir sur Apocalypse 18. Au chapitre 16 et au verset 17, il est dit, « Le septième ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple ou du ciel, du trône, une grande voix qui disait, « C'en est fait. » Donc, nous pouvons comprendre que le temple, bien sûr, le temple qui se trouve dans le ciel, où se trouve le trône, voilà, où se trouve le trône de Dieu, dans le lieu très saint. Le trône, à un certain moment de l'histoire, 1844, le trône s'est déplacé. Et c'est écrit dans les écrits de l'esprit de prophétie. Le trône s'est déplacé et a été se poser dans le lieu très saint. Et le Père et le Fils sont assis l'un à côté de l'autre. Donc, nous pouvons comprendre, nous retournons au verset 18. Il est dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. » Nous pouvons comprendre ici, dans ce texte, que la gloire de Dieu n'est rien d'autre que... D'ailleurs, quand on lit Wagoner, c'est exactement ce qu'il dit. C'est la justice du Christ. Alors, comment la terre peut être éclairée de la gloire de Dieu? Dites-moi. C'est par l'expérience d'hommes et de femmes qui ont vécu l'expiation finale, l'éradication totale et définitive du péché dans le sanctuaire et dans la vie des croyants. Donc, la gloire ici n'est rien d'autre que la justice du Christ. Donc, il faut que cette gloire de la justice du Christ puisse se manifester sur la terre. Il doit y avoir un peuple qui glorifie le Dieu du ciel à travers la justice du Christ. Amen. Au verset 2, il est dit, « Et il cria avec force et à grande voix et dit, « elle est tombée Babylone, la grande. » Et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. C'est très important de souligner cela au verset 2. C'est la demeure des démons. C'est impressionnant. C'est-à-dire que toutes les églises qui ont pactisé avec Babylone, qui ont fusionné avec Babylone. Nous l'avons vu hier soir avec le pasteur Jean-Christophe. Toutes les églises qui ont fait alliance avec Babylone. là où se toutes ces églises sont en contact intime avec des esprits de démons. Et le message qui nous est donné après, au verset 3, est d'une extrême importance. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Il est dit ici, toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit de la métropole? Est-ce qu'il s'agit des États-Unis? Est-ce qu'il s'agit ici, dans ce texte, de l'Italie, de la Hollande, de la Norvège? De quoi est-il parlé ici quand il est dit le terme nation? De quoi est-il parlé ici dans ce texte quand j'entends toutes les nations? Vous serez surpris. Ici, il s'agit de toutes les organisations religieuses. Toutes les nations, il n'y a pas une organisation religieuse qui n'ont pas bu le vin des fausses doctrines. Toutes les nations, toutes les religions qui se trouvent sur terre, ils ont bu ce vin de fausses doctrines. Et même dans les écrits d'Ellen White, on retrouve dans le commentaire biblique d'Ellen White, à la page 592, je vais lire cela, à la page 592, le commentaire biblique d'Ellen White, il est dit, « Dieu est en conflit avec les églises actuelles. » Je reprends ce terme. « Dieu est en conflit avec les églises actuelles. Elles sont en train d'accomplir la prophétie de Jean. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Elles se sont séparées de Dieu en refusant de recevoir le sceau de Dieu. Et les gens du monde ont bu du vin de la fureur de son impudicité en approuvant un faux jour de repos et en piétinant le sabbat du Seigneur. » Donc, toutes les nations, c'est toute communauté religieuse confondue. Et dans d'autres textes, il s'agit vraiment des nations, des peuples, des voilà. Donc, nous allons passer tout de suite. Alors, la page 592 du commentaire biblique d'Ellen White. Le chapitre 18 de l'Apocalypse. Voilà. Voilà. Donc, nous allons lire quelques écrits d'Ellen White. Nous savons que penser sur l'Apocalypse, c'est une compilation, mais nous retrouvons les écrits de la servante du Seigneur. Donc, on va commencer.
L'expérience du mouvement adventiste en 1840-1844. L'ange puissant qui instruisait Jean n'était autre que Jésus lui-même. La pose de son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre démontre le rôle qu'il joue dans les scènes finales du grand conflit avec Satan. Cette position démontre sa suprême puissance et son autorité sur toute la terre. De siècle en siècle, le conflit est devenu plus intense et plus déterminé, et il s'accentuera encore jusqu'aux scènes finales, lorsque les œuvres puissantes des forces des ténèbres auront atteint leur sommet. Satan unit à de mauvais hommes, trompera le monde entier ainsi que les églises n'ayant pas accepté l'amour de la vérité. Mais l'ange puissant exige l'attention. Il crie d'une voix forte. Il démontrera la puissance et l'autorité de sa voix à ceux qui se sont unis à Satan pour s'opposer à la vérité.
Voilà, on passe à...
Voilà. Après que les sept tonnerres eussent fait entendre leur voix, l'ordre est donné à Jean, tout comme à Daniel concernant le petit livre. Scelle ce qu'on dit des sept tonnerres et ne l'écris pas. Ceux-ci ont trait à des événements futurs qui seront révélés en leur ordre successif. Daniel sera debout pour un héritage à la fin des jours. J'envoie le petit livre décédé. Ensuite, les prophéties de Daniel ont leur place exacte dans le premier, le deuxième et le troisième message de l'ange devant être donné au monde. Le décèlement du petit livre était le message en relation avec le temps. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse forment un tout. L'un est une prophétie, l'autre une révélation. L'un est un livre scellé, l'autre est un livre ouvert. Jean a entendu les mystères proclamés par les sept tonnerres, mais il a reçu l'ordre de ne pas les écrire. La lumière spéciale donnée à Jean, ayant été proclamée par les sept tonnerres, était un tracé des événements qui auraient lieu sous le premier et sous le second message de l'ange. Il n'était pas bon pour les hommes de savoir ces choses, car leur foi devait nécessairement être mise à l'épreuve. Les vérités les plus merveilleuses et élevées seraient proclamées selon l'ordre de Dieu. Le premier et le second message de l'ange devaient être proclamés, mais aucune lumière supplémentaire ne serait révélée avant que ces messages n'aient accompli leur œuvre spécifique. Ceci est représenté par l'ange qui pose un pied sur la terre et déclare avec un serment des plus solennels qu'il n'y aura plus de temps. Ce temps proclamé solennellement par l'ange sous serment n'est pas la fin de l'histoire de monde, ni du temps de grâce, mais bien du temps prophétique précédant la venue de notre Seigneur, c'est-à-dire que les hommes n'auraient plus de message basé sur un temps défini. Après cette période de temps, s'étendant de 1842 à 1844, il n'y a plus de tracé défini du temps prophétique. Le calcul le plus long s'étend jusqu'en octobre 1844.
C'est clair ce que nous venons de lire. Parce qu'il y a des mouvements qui ont fixé beaucoup de dates. Et beaucoup de personnes ici ont connu le mouvement du Grand Cri qui ont fixé des dates en dehors de cette fameuse date de 1844. Et nous allons lire encore ce qu'Ellen White dit au sujet de cette période. Continuons.
La position de l'ange ayant un pied sur la mer et l'autre sur la terre indique l'étendue de la proclamation du message. Il traversera les mers et sera proclamé dans d'autres pays et atteindra le monde entier. La compréhension de la vérité, la joyeuse réception du message, est représentée par l'action d'avaler le petit livre. La vérité concernant le temps de l'avènement de notre Seigneur était un message précieux pour nos âmes. Dieu ne nous a pas révélé le temps où ce message se terminerait, ni celui où le temps de grâce prendra fin. Ce qui a été révélé, nous devons l'accepter pour nous-mêmes et pour nos enfants. Mais que l'on se garde bien d'essayer de pénétrer ce qui a été gardé secret dans les desseins du Tout-Puissant. J'ai bien des fois mis en garde contre la tentation de fixer des dates. Le peuple de Dieu ne recevra plus jamais un message basé sur le temps. Nous ne pouvons connaître exactement ni le temps de l'effusion du Saint-Esprit, ni celui de la venue de Christ.
C'est très important ce passage. J'ai bien des fois mis en garde contre la tentation de fixer des dates. Depuis l'époque d'Ellen White, dès qu'elle a commencé son œuvre, il y avait déjà des gens qui fixaient des dates. Elle dit bien ici, j'ai bien des fois mis en garde contre la tentation de fixer des dates. Le peuple de Dieu ne recevra plus jamais. C'est très important, plus jamais. Un message basé sur le temps. Après la fameuse date de 1844, à partir de cette date, tout a été révélé aux pionniers. Après cette date-là, personne ne devra fixer de date pour quoi que ce soit. Nous ne pouvons connaître exactement ni le temps de l'effusion du Saint-Esprit, ni celui de la venue du Christ. Continuons.
Message d'Apocalypse 14, annonçant que l'heure du jugement de Dieu est venue, est donné au temps de la fin, et l'ange d'Apocalypse 10, elle représentait un pied sur la mer et l'autre sur la terre, pour montrer que le message sera porté dans des contrées lointaines, au-delà des océans, et que les îles de la mer entendront le dernier message avertissement proclamé au monde. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui est vivant au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Apocalypse 10, versets 5 et 6. Ce message annonce la fin du temps prophétique. Ceux qui attendaient ardemment l'apparition du Seigneur et s'attendaient à le voir en 1844 ont éprouvé un amer désappointement. Il entrait dans les vues du Seigneur que ce désappointement eut lieu pour mettre à jour ce qui existait dans les cœurs.
Et souvent, on entend des gens dire que les adventistes se sont trompés, ils ont fixé des dates, etc. Nous lisons que il entrait dans les vues du Seigneur que ce désappointement eut lieu pour mettre à jour ce qui existait dans les cœurs. C'est Dieu lui-même qui a caché cette fameuse date et tout est écrit là pour nous permettre de ne pas tomber dans des extrêmes et dire, par exemple, que William Miller s'est trompé, il a fait un mauvais calcul, etc. Il entrait dans les vues du Seigneur que ce désappointement eut lieu pour mettre à jour ce qui existait dans les cœurs. Très important. Continuons. Il me semble que c'est fini. Non, on continue.
Chapitre 14, verset 12, Daniel 12, verset 4 à 13. Une personne qui n'est autre que le Christ. L'ange puissant qui instruisit Jean n'était autre que le Christ. Le fait qu'il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre sèche, montre la part qu'il prend dans les scènes finales du grand conflit avec Satan. Sa position prouve sa grande puissance et son autorité sur toute la terre. Le conflit s'est intensifié et s'est aggravé. S'est intensifié et s'est aggravé époque après époque. Il continuera à s'accentuer jusqu'aux scènes finales. Lorsque l'œuvre magistrale des puissances des ténèbres atteindra son apogée, Satan uni aux hommes impies trompera le monde entier et les églises qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Mais l'ange puissant exige l'attention. Il crie d'une voix puissante, il doit montrer le pouvoir et l'autorité de sa voix à ceux qui se sont unis à Satan pour s'opposer à la vérité. Après que les sept tonnerres eurent émis leur voix, Jean, comme Daniel, reçut cet ordre au sujet du petit livre. C'est ce qu'on dit, les sept tonnerres. Ces choses se réfèrent à des événements futurs qui seront révélés en leur temps. Daniel recevra son héritage à la fin des temps. Jean a vu le petit livre auquel on a ôté les sceaux. On peut en déduire que les prophéties de Daniel ont une application dans la proclamation au monde des messages des premiers, second et troisième anges. L'ouverture du livre était le message en relation avec le temps. Les livres de Daniel et d'Apocalypse sont un. Le premier est une prophétie, l'autre une révélation. L'un est un livre scellé, l'autre un livre ouvert. Jean écouta les mystères prononcés par le tonnerre, mais il lui fut ordonné de ne pas les écrire.
C'est clair. Les sept tonnerres, ici, nous lisons, c'est le message des trois anges. Donc, nous pouvons déduire que ceux qui ont spéculé en dehors de ce que la servante du Seigneur dit, en fixant des dates, en faisant des calculs qui n'ont strictement rien à voir avec ce que la messagère du Seigneur nous a déjà donné, qu'après cette fameuse date de 1844, il n'y a plus de prophétie basée sur le temps. Et avant de continuer, nous allons continuer. Alors,
continue. La lumière spéciale donnée à Jean et exprimée par les sept tonnerres était une esquisse des événements à venir pendant la proclamation des messages des premiers et second anges. Il n'était pas bon que les gens connaissent ces événements parce que leur foi devait être nécessairement éprouvé. Le plan de Dieu était que les vérités plus merveilleuses et avancées soient proclamées. Les messages des premiers et second anges devaient être proclamés, mais une plus grande lumière ne devait pas être révélée avant que ces messages aient fait leur œuvre spécifique. Ceci est représenté par l'ange qui est debout, immobile, avec un pied sur la mer et qui jure solennellement qu'il n'y aura plus de temps.
Stop, 2 minutes. L'ange représentant le Christ, Jésus lui-même, dit qu'il n'y aura plus de temps prophétique. Donc les gens qui ont fixé des dates après cette fameuse période de 1844 sont contre le Christ. Puisque le Christ jura par celui qui vit éternellement qu'il n'y aura plus de temps. Continue.
Ce temps où l'ange jure solennellement n'est pas la fin de l'histoire du monde, ni du temps de grâce, mais le temps prophétique qui précédera la venue du Seigneur, c'est-à-dire que les gens ne recevront pas d'autres messages sur un temps défini. Depuis ce laps de temps qui englobe la période de 1842 à 1844, il ne peut y avoir aucun calcul défini d'un temps prophétique. Le calcul le plus long aboutit à l'automne de 1844. La position de l'ange, un pied sur la mer et l'autre sur la terre, montre l'extension de la proclamation du message. Il traversera les grands océans et sera proclamé dans d'autres pays, dans le monde entier. La compréhension de la vérité, la joyeuse réception du message sont représentées par la mendication du petit livre. La vérité au sujet de la venue de notre Seigneur était un précieux message pour nos âmes.
Nous avons lu ce dernier passage-là. Il ne peut y avoir aucun calcul défini de temps prophétique. Le calcul le plus long aboutit à l'automne de 1844. Alors, c'est pour cette raison que il y a beaucoup de personnes qui le font, quand on n'étudie pas les écrits de l'esprit de prophétie, on va partir dans plusieurs directions. Mais nous devons recevoir ce qui nous a été donné et rester dedans. Cette vérité-là doit sceller nos âmes pour l'éternité. Donc, c'est important de comprendre que ce message doit être encore prophétisé, mais c'est le même message des 7 tonnerres. Et le message des 7 tonnerres n'est rien d'autre que le message des trois anges. Donc, je ne sais pas si on a fini. C'est terminé. Donc, je voudrais dire, si il pleut à l'extérieur et que nous voulons être mouillés, que devons-nous faire? S'il pleut et que nous voulons être mouillés, qu'est-ce que nous devrions faire? Sortir. Donc, il est dit que la pluie de l'arrière-saison avait commencé à l'époque d'Ellen White. Et ça doit prendre de l'ampleur. Mais si nous voulons bénéficier de cette pluie de l'arrière-saison, nous ne pouvons pas rester dans les organisations religieuses. Il faut sortir pour bénéficier de la pluie qui tombe. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes vont spéculer. Oui, mais est-ce que moi, pour quitter, est-ce que non? Pour bénéficier de cette pluie, il faut sortir parce que l'expiation, comme on disait hier soir, se fait hors du camp. Nous ne pouvons bénéficier de l'expiation finale dans une organisation religieuse parce qu'elles sont tous corrompues. Pour bénéficier de la pluie, il faut sortir et se laisser mouiller par la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est n'est rien d'autre que le message de la justification finale, le message de la justice qui doit nous permettre de subsister devant le Christ quand il viendra. Alors, y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais il y a longtemps que je suis à l'église, même si… » Bon, et puis, il y a d'autres personnes qui sortent de l'église, mais ils ne savent pas où aller. Il faut retrouver les messages, ce que Dieu nous avait donné à travers l'esprit de prophétie. Tout est là. Donc, il nous faut étudier, comparer et ne pas tomber dans des extrêmes de façon personnelle. Il faut étudier les écrits d'Ellen White et d'autres Bibles, mais ne pas tomber dans des extrêmes. Quand nous ne comprenons pas un passage, vaut mieux laisser le passage de côté, demander à Dieu sa lumière, revenir dessus, étudier, méditer, revenir dessus à nouveau. Et c'est ce que ne fait pas beaucoup de personnes, ne font pas du moins beaucoup de personnes, parce que il y a des leaders religieux qui annoncent qui prêchent de fausses doctrines et égarent le peuple. Donc nous allons nous arrêter là. Nous remercions Dieu pour la communication de sa parole et nous allons nous mettre à genoux et remercier Dieu. Éternel, notre Créateur et notre Dieu, nous te remercions des lumières que tu nous as communiquées en ce matin. Nous te prions de nous imprégner de ta parole, de telle sorte qu'il puisse y avoir un peuple qui puisse vivre pleinement l'expiation finale, afin qu'un peuple puisse t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Un peuple qui aura vécu l'expiation finale et qui portera pleinement l'image de Jésus. Bénis-nous, Père, en ce matin. Fortifie notre foi de telle sorte que ta lumière puisse grandir dans nos cœurs et que nous puissions vivre l'expérience de la justification finale. Accorde-nous, ô Dieu, cette grâce, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org. Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.